tous, on est derrière l'église Saint-Julien, ceux qui habitent Tours, puisque nous sommes en direct de Tours. Et je suis avec plusieurs personnes de la Bénédiction universelle, notamment Yéna.
Bonsoir. Bonjour, bonsoir, oui. Donc, une émission. Depuis ce bel événement de la Vélorussion universelle et dont on a envie de parler aussi en radio pour les Tourangeaux, les Tourangelles. Ouais, je me suis pas trompé. Mais aussi les Bruxellois qui nous écouteront.
C'est bien ça. Et ils peuvent nous écouter aussi sur Radio Campus Tours, sur 99.5 FM. Et dans un premier temps, du coup, on avait envie de vous parler. Dans une seconde partie, on vous parlera de la Vélorussion universelle, puisqu'on a plusieurs vélorussionnaires qui viennent des quatre coins de l'Hexagone, mais pas que d'ailleurs. On a des Européens, on a des Bruxellois dans l'assistance. Mais dans un premier temps, on voulait parler avec Anaël de la place du vélo à Tours, puisque voilà, cette année, après Nevers, du coup, la Vélorussion universelle est à Tours pendant 4 jours. Donc on voulait peut-être nos pratiques de cyclistes à Tours au quotidien, comment on voit cette. Comment on voit le partage, en tout cas, de la route avec les automobilistes. Toi, ça fait combien de temps, du coup, que tu habites à Tours, Anaël, et que tu pratiques, du coup, le vélo à Tours ?
Donc, ça fait 5 ans que j'habite la ville de Tours, et ça fait 5 ans que j'utilise le vélo comme transport quotidien pour aller faire les courses, pour aller au boulot. Et grosso modo, c'est tout à fait jouable, parce que la ville n'est pas si étendue et que c'est plutôt plat, hormis pour aller à Tournord, mais on se rend bien compte que si c'est jouable en termes de distance, ça va être beaucoup plus compliqué avec ce rapport toujours code de la route et des interactions avec les automobilistes qui nous voient pas forcément comme légitimes sur la route et qui peuvent nous dépasser de manière dangereuse. Et très souvent, quotidiennement, je me dis que c'est dangereux, que la voiture peut me faucher parce que la rue est étroite et qu'elle ralentit pas. Donc voilà, c'est quand même une ville qui est peu pratique pour les cyclistes parce qu'il y a plein d'axes où finalement on n'est pas forcément les bienvenus et que c'est plutôt dangereux. Il y a la rue nationale qui a été finalisée en 2013, qui n'est pas pensée pour les cyclistes. Donc ceux qui sont pas sur Tours, c'est un grand axe pensé tram et piéton, et la place du vélo n'y est pas pensée. Donc soit on est sur les rails du tram et c'est officiellement interdit, soit on gêne les piétons, soit officiellement on est censé faire un gros détour et en fait on n'est pas prioritaire, et c'est vraiment dommage parce que c'est un mode de transport écologique, économique, bien pratique et bien agréable, et c'est pas franchement top.
Sachant que cette rue nationale fait partie de la Loire à vélo, ce qui est quand même
La Loire
un paradoxe.
À vélo est très pratique et très intéressante pour les touristes, mais en fait, souvent la Loire à vélo, c'est vraiment ce qui est prévu pour rejoindre les grandes villes en suivant la Loire, mais finalement, il n'y a pas de politique suffisante pour les cyclistes d'entour, les Tourangeaux locaux. Quoi.
Alors vous organisez quoi, des ateliers vélo, une vie associative, collective autour de ça. Est-ce que c'est avant de décrire un peu ce que vous faites, est-ce que vous voulez pas aussi un peu un changement de modèle, quoi ? C'est quand même une ville qui se dit métropole, etc. Et finalement, elle fonctionne quand même comme un carrefour au milieu de la Touraine, quoi.
Alors, très rapidement, actuellement, nous avons sur la ville de Tours 3 ateliers de réparation, d'autoréparation de vélo. Donc, il y a la riche Vincent Saroul, on a dans le quartier Febvot, rue Febvot, l'atelier roulement habile. Et nous allons avoir, je ne sais plus le nom du quartier, le CC37, collectif cycliste 37. Et c'est le collectif cycliste 37 qui va pas mal être en contact avec la métropole, les élus, etc., qui vont essayer de faire ce travail de dialogue, de négociation et de suivi. Mais on se rend compte que finalement, par exemple, là, il y a un chantier qui est en cours avenue Gramont et que la place du vélo est pas suffisamment prise en compte, qu'on n'a pas été suffisamment consulté, que c'est vraiment dommage en 2019 de pas penser suffisamment à la place du vélo. Donc ouais, je sais pas si j'ai répondu à ta question.
Non, mais surtout que les politiques, enfin en tout cas le maire de la ville, Christophe Boucher, parle quand même du vélo quand voilà, il aimerait bien, en tout cas c'est ce qu'il dit, mais en fait dans les faits il n'y a rien du tout. Donc
Il va y avoir quelques axes qui sont pensés cyclistes, mais après des fois c'est des petits tronçons, ou alors c'est Il y a des sas à vélo, mais qui sont totalement inaccessibles et on n'arrive pas à dépasser les voitures, donc le sas à vélo ne sert à rien. On va avoir des bouts de piste cyclable qui va sur un trottoir sur 100 mètres qui en redescend. Il y a des poubelles sur ces pistes cyclables. Il y a des voitures qui se garent sur, par exemple, l'avenue Maginot au retour direction le centre-ville. On est censé être sur le trottoir. Il y a les poubelles, il y a les camions qui se garent. C'est mal foutu et on peut vraiment faire mieux. Je viens d'une ville qui s'appelle Strasbourg. Voilà, on voit la différence vraiment, quoi.
Ouais, c'est peut-être intéressant aussi d'avoir autour de la table, on a d'autres personnes qui viennent des Vélorussions parisiennes, nancéennes, bruxelloises, c'est mon cas. Il y a un petit peu partout et donc le comparatif il est pas mal aussi. Enfin moi, mon impression en venant dans cette ville, c'est qu'elle a un gros potentiel évidemment par rapport à ça. Elle est sur un super axe européen de la Loire à vélo qui est bien aménagé, mais ça a l'air, il y a des espaces publics qui sont fort réaménagés, mais on dirait vraiment que c'est un contrat entre le développeur urbain qui veut beaucoup de valeur pour son terrain et puis de l'autre côté l'ingénieur qui pense que ça va passer comme ça, qu'on fait passer le tram et il y a quand même des diminutions d'espace de la voiture dans ces endroits-là, mais on vous y pense pas. Et peut-être une question à renvoyer vers d'autres, c'est aussi, est-ce que chez vous le vélo est un peu un alibi politique pour dire, regardez, on fait quelque chose pour le développement durable, mais qu'au final on n'est pas dans quelque chose de très concret ou consistant. Erwan de Nancy.
Donc oui, Axel de Nancy.
Axel, pardon.
Donc je peux répondre à la question concernant la métropole de Nancy, puisque j'y vis depuis presque 10 ans maintenant. Grossièrement, la métropole fait beaucoup de communication sur tout ce qui est aménagement cyclable, en vantant les 200 km cyclables sur toute la métropole. Sauf que la grande majorité des aménagements, qui sont très nombreux certes, ne sont pas adaptés pour les cycles. Donc c'est un peu ce que tu disais, ouais. Après, je pense que c'est un peu une globalité sur tout le territoire français. Ça touche pas spécialement Nancy ou Tours. Et qu'il y a toujours une non-maîtrise du besoin réel du cycliste lors des aménagements. Et ce que moi je dirais, ce qui est dommage, c'est qu'il y a un centre d'expertise qui existe pour ça, qui crée des documentations officielles hein, pour les aménageurs, qui s'appelle le CEREMA. Alors le nom entier, c'est Centre d'expertise et technique, je ne sais plus comment on dit exactement, c'est très long, qui fait des documents très, très bien pensés et qui sont vraiment à suivre. Enfin, c'est vraiment ça que je regrette, c'est que les aménageurs ne respectent pas du tout, enfin ne prennent pas du tout en compte ce type de connaissances.
Mais donc il y a un partage un peu de bonnes pratiques, etc., qui se fait pas entre les villes, entre les ingénieurs. Tu dis qu'à Strasbourg, tu viens de Strasbourg et puis tu viens ici, et ici c'est le Moyen-Âge à côté de faire ça. Moi je me plains beaucoup que dans notre ville à Bruxelles, vraiment le vélo devient presque un outil de communication. On vient de faire le départ du Tour de France, c'était assez navrant. Regardez, on fait tout pour le vélo, enfin on fait tout pour parler du vélo, mais qu'est-ce qu'on fait pour en faire, hein? Il y a un peu plus un problème. Mais il n'est pas autour de la table pour l'instant, mais Albert, il en parlait, peut-être que tu peux en parler pour lui. C'est la question de la concertation aussi. On peut faire, on peut développer une ville à vélo simplement avec les gens, en les poussant, en les écoutant, etc.
Oui, en effet.
Lucie de Paris et de
Bernay.
Bernay
en Normandie. Les pouvoirs publics peuvent faire un petit coup de pouce pour donner envie aux gens de faire du vélo. Après, moi personnellement, les aménagements cyclables, je les utilise jamais parce qu'ils ne sont jamais conçus correctement. Et c'est pour qu'on ne gêne pas les voitures. Donc ça n'a aucun intérêt d'aller dessus quand on est un vélo. Parce que c'est... Enfin bref, voilà, vraiment.
Et comment est-ce qu'il devrait être construit alors? Quelle serait la bonne méthode pour amener des aménagements réellement utiles et qui appellent des nouveaux cyclistes?
Je pense qu'on a de très bons exemples en Hollande, surtout au niveau de la campagne. Moi, donc à Bernay, c'est la campagne. Et on a traversé la Hollande et à la campagne là-bas. Déjà, la campagne est vivante là-bas, contrairement à chez nous. Il y a des petites boutiques partout et il y a des routes partout qui sont totalement cyclables. C'est ça.
Mais ce qu'on voit du coup, c'est que le vélo s'inscrit aussi dans une autre approche aussi de la société, là, pour le coup. Et c'est pas que faire du vélo. Faire du vélo va amener aussi, voilà, comme tu dis, la création de rendre peut-être plus vivants les communes rurales, parce qu'en France, on a toujours coutume, là, depuis plusieurs années, de dire que les centres-villes se vident. Mais peut-être que l'usage du vélo, du coup, alors peut-être qu'on empiète sur la deuxième partie de l'émission, là, mais va amener, voilà, une revitalisation des centres-bourgs, de tout ça, non ? Peut-être ?
Ouais. C'est ce qu'on essaye de faire pendant les Vélorussions. On essaye aussi de motiver les gens à prendre le vélo plutôt que la voiture, prendre l'espace qui leur est dû. Parce que finalement, il n'y a pas tant de gens qui sont possesseurs d'une voiture en ville. Et comme on voit au Canada, par exemple, quand on enlève une voie de voiture, finalement, il y a plus de personnes qui utilisent l'espace. Donc c'est...
Même quand il y a des centres, je pense à Tours, du coup, à l'agglomération, aux grands centres commerciaux qu'il y a à l'extérieur de la ville de Tours, comme à Chambray-les-Tours, même au nord, à Tours-Nord, ça n'a pas été pensé aussi pour y accéder en vélo, en fait, à ces axes-là. Tout a été pensé pour la voiture. Même le pont là, du périphérique, du coup, qui est à l'extérieur de la ville, on ne peut pas l'emprunter en vélo. C'est-à-dire, pour aller à Fondette, pour ceux qui connaissent, du coup, à l'extérieur de la ville, qui n'est pas très loin, Fondette, c'est à 8 km. Et en vélo, c'est super compliqué, en fait, parce qu'il n'y a aucun axe qui est pensé pour le vélo.
C'est sûr, l'utilisation de la voiture des centres, des villes, l'activité commerciale, et en même temps concentre tout à ce niveau-là. Du coup, les centres-villes, surtout des petites villes, se meurent. Et la campagne aussi, où avant, dans une petite ville comme chez nous, alors moi, je n'habite pas précisément à Bernay, j'habite à Saint-Victor-de-Crétienville, donc c'est une petite ville à 8 km et avant, dans ce genre de ville, il y avait 3 bars et une épicerie. Maintenant, il n'y a plus rien et il faut faire 8 km de vélo pour avoir tout ça, quoi.
Donc pour le milieu urbain, on peut dire aussi que le territoire, il va être défini par rapport à ses mobilités, et on s'est craché dans un modèle du tout à l'auto. La Belgique est un pays, en tout cas la Belgique des villes est un pays, une zone relativement riche de l'Europe, et ce qu'on a vu, c'est vraiment un dérèglement, y compris au sein des villes. Donc ce que tu peux dire au niveau du village, la disparition des commerces spécifiques, des commerces spécialisés, des commerces de frais, etc., vers l'extérieur, tout ça vient de là. Et donc comment est-ce qu'on essaye de revoir maintenant, comment est-ce qu'on espère que ça va se faire? On peut le voir en Angleterre aussi, c'est qu'on va calculer les choses beaucoup plus par communauté. Et qu'est-ce qu'on peut faire à distance d'être à pied au niveau des services, l'école, et aussi au niveau des commerces? Et donc, on commence, dans certaines zones urbaines, à percevoir que les commerçants eux-mêmes veulent un autre modèle d'utilisation du territoire, et dans lequel le vélo a une chaîne énorme, parce que quand tout le monde aura abandonné sa voiture parce qu'elle est trop chère, parce qu'elle est plus praticable, voire parce qu'on l'interdit, tout le monde ne pourra pas se déplacer uniquement à pied, un problème de distance, ou uniquement en transport en commun, parce que là c'est un problème d'offre, un problème de coût, même si on les développe. Et donc dans des villes, j'ai visité Maastricht récemment, ils ont remplacé en fait toute la part les 50% de personnes qui se déplaçaient en voiture, se déplacent maintenant à vélo, et le reste a relativement peu changé, le nombre de personnes qui se déplacent à pied et en transport en commun. Et si on lit aussi les développements du vélo à travers d'autres axes qu'uniquement la mobilité ou le plaisir des minorités actives et motivées comme Anaël et nous ici en train de faire la Vélorussion, on peut voir aussi que d'un point de vue santé, c'est vraiment bon, d'un point de vue économie des ménages, d'un point de vue genre, c'est pas mal aussi, sachant que souvent la voiture au sein d'un ménage appartient à la personne qui domine le plus ce ménage. Et donc d'un point de vue aussi d'une lecture de classe sociale, on ne doit pas non plus accepter que le dominant de l'espace routier soit aussi celui qui sait se la payer, et l'autre, il est privé de sa liberté, quoi. Donc on peut avoir une lecture transversale sur plein de...
Une lecture que j'aimerais apporter en plus, c'est de en fait changer les mentalités. C'est changer les mentalités des personnes qui se déplacent, et de dire en fait 3, 4, 5, 6 km, c'est vraiment faisable à vélo, en fait. Ça peut être plaisant, ça peut être en ville, au centre-ville, plus rapide, plus efficace, plus agréable que la voiture. C'est bête, mais il n'y a plus à tourner pendant 15 minutes parce qu'il n'y a pas de place de parking, il n'y a pas besoin de passer à la pompe, il n'y a pas besoin de faire de gros détours parce que voilà, le vélo permet quand même d'aller au plus efficace, au plus rapide. Et c'est aussi de se dire, bah oui, il fait un peu froid, on s'équipe. Oui, il y a un risque de petite pluie, on s'équipe et qu'on n'est pas fait en sucre. Et qu'en fait, il faut sortir de cette logique de tout voiture et vraiment de trouver des solutions. J'ai un enfant, bah, il existe des systèmes pour mettre des enfants sur des vélos. Pour faire les courses, bah, en fait, on arrête d'acheter le pack d'eau et on utilise l'eau du robinet et on a des sacoches pour faire les courses. Et en fait, il faut vraiment changer le logiciel du tout voiture et de se dire, mais en fait, à vélo, c'est faisable. On fait sa petite activité physique. Alors oui, en rentrant des courses, on aura peut-être un peu sué, mais ça nous évite peut-être un abonnement à la salle de sport pour faire une fois du sport dans la semaine. On fait du sport un peu tous les jours et de manière agréable. Et c'est un vrai plaisir d'aller au travail en pédalant. On revient, on se défoule un petit peu sur les pédales et pas sur la personne qu'on croise. On va pouvoir profiter des senteurs, des fleurs et autres. Et c'est vraiment un vrai plaisir. Mais il faut oser se dire que bah, faut s'équiper en fait, faut s'équiper aussi et penser ça en investissement et en mode de transport quotidien. Voilà le message que je tenais à faire passer.
Et moi je veux bien revenir sur les enfants. Transporter un enfant c'est possible et il peut aussi pédaler lui très tôt, hein, plus tôt qu'on ne le pense. Et d'autant plus s'il y a plus de vélos autour que de voitures, parce qu'il sera du coup plus en sécurité. Un enfant à vélo, il peut aller à son activité tout seul, donc on n'a plus besoin de passer son mercredi à jongler entre l'activité du grand, du moyen et du petit à travers la ville. Ils peuvent y aller tout seul ou accompagner si c'est le petit. Et voilà, donc plus d'autonomie plus tôt.
Quand tu dis ensemble, ça veut dire que le principe des vélorutions, le principe des masses critiques régulières, c'est aussi une initiation à se dire ben, ok, là dans ce cadre là en ville je peux amener mon enfant et il va découvrir je sais pas, un espace de transmission quoi, sur le fait qu'il puisse lui aussi le pratiquer, même si pour l'instant c'est pas sûr. Comment tu vois en fait d'éduquer des enfants à vélo dans un contexte qui est quand même un peu dangereux?
Ben déjà je le fais. Ensuite j'explique aux enfants les dangers qu'il peut y avoir, parce qu'ils sont pas cons, ils les voient aussi. Et après, selon l'évolution de l'enfant, à 8 ans, l'enfant il a son écart visuel, je ne sais plus comment on appelle ça, qui s'augmente et qui devient, du coup, à partir de ce moment-là, il peut vraiment être autonome dans la ville. S'il connaît les règles, etc., il peut circuler tranquillement dans la ville, même s'il y a des voitures et que ça reste dangereux. Voilà. Après, plus il y a de vélo.
Moi, la remarque qu'on me fait souvent, c'est oui, mais tu verras quand tu auras des enfants, il faut un coffre, il faut une voiture, etc. Et j'ai des exemples d'amis sur Tours, bah, en fait, qui vont s'équiper d'un vélo cargo, qui vont mettre le bout de chou dedans. Et en fait, c'est aussi de se dire, mais c'est pas le but de mettre en danger les automobiles. C'est pas le but de mettre en danger les cyclistes, et en fait c'est aussi aux automobilistes de dire ben en fait ils ont le droit d'être sur la route, ils font l'effort de pédaler, ils sont plus écologiques, et c'est aussi les automobilistes qui doivent changer leur logiciel en disant ben, on partage la route quoi. Si déjà pour X raisons je peux pas lâcher mon volant et mon 4 roues, de dire ben en fait je vais ralentir, je vais m'écarter et je vais essayer de partager la route quoi. Et que oui, on va te faire ralentir 5 secondes, mais en fait 5 secondes c'est la mise en sécurité des automobilistes, des cyclistes.
Et puis qui respectent aussi les aménagements qui sont si maigres déjà pour les cyclistes, mais, surtout... Et puis tout à l'heure, on parlait des aménagements faits par la mairie, mais quand ils réaménagent des routes, par exemple, ils vont refaire le passage piéton, mais généralement, le sas vélo, des fois, il passe à la trappe de la repeinture sur la route. Enfin, je le vois à Tours, dans certaines rues, hein, je pourrais pas citer des... Enfin, si, la rue Mirabeau, par exemple, le sas vélo, on le voit quasiment plus. Donc, il faut savoir qu'il est là, quoi.
Faut savoir qu'il est là, il faut savoir à quoi ça sert, et que finalement, on sait pas forcément à quoi sert cette petite zone, donc faut aussi expliquer, et c'est pas toujours simple d'expliquer... quand on partage la route et que chacun va au plus vite et au plus pressé. Et c'est aussi, la dernière fois, j'étais pas sur la piste cyclable parce que dans ce sens-là, je devais pas la prendre et que je me suis fait gronder. J'ai essayé de lâcher, mais là, j'ai pas besoin d'être dessus. Je devais être sur la route. Et effectivement, c'est de voir les aménagements, les comprendre et les respecter. Et c'est le classique, je vais juste acheter mon paquet de clopes et je me gare devant le magasin et tant pis pour la piste cyclable, et donc la voiture, le cycliste va faire un écart et tant pis pour la mise en danger du cycliste quoi.
Bon, alors, vendredi 12 juillet, début de la Vélorution universelle, il y a à peu près quoi, 200, 250 voyageurs venus de France et de Navarre, hein, et même de plus loin, qui sont là. Est-ce que tu peux nous donner, avant de faire une première petite pause, le programme en très court à partir de ce vendredi soir?
Alors, je vais commencer par vendredi. En gros, cet après-midi, vendredi après-midi, il y aura eu la masse critique. Le soir, nous allons tous nous réunir dans un lieu qui s'appelle la ressourcerie La Charpentière, qui se trouve à côté de Tours, pour partager un repas, pour profiter d'animations musicales et d'échanger. Ça va être bien sympathique. Demain, samedi matin, de 11 à 14 heures, dans la ville de Tours et à la ressourcerie, il va y avoir diverses activités, une chasse au trésor pour découvrir Tours, mais aussi des temps de discussion, des porteurs de parole, c'est-à-dire aller voir les tourangeaux pour leur demander pourquoi ils font du vélo ou pourquoi ils ne font pas du vélo, et apporter un peu le débat dans l'espace public. Il y aura un peu de mécanique vélo, il y aura un peu de création, etc. Et voilà pour en gros les différents temps d'atelier. Et l'après-midi, samedi après-midi, rendez-vous à 14h45, place de Strasbourg, donc dans Tours, pour former la masse critique, donc un cortège de plusieurs centaines de cyclistes qui vont déambuler en pédalant dans les rues de Tours et finalement se réapproprier l'espace public et devenir ce trafic très souvent qui est formé d'automobilistes. Cette fois-ci, ça sera un trafic de cyclistes et se faire plaisir tous ensemble sur la route de manière conviviale mais militante.
Donc 14h45, place de Strasbourg, c'est là où il faut que tu viennes citer Tourangelle, le Tourangeau.
Tout à fait, pour déambuler et découvrir le plaisir de se sentir en sécurité, parce que très souvent au quotidien on se sent vulnérable seul face à ces automobilistes, et là en fait c'est le plaisir de sentir un parmi des centaines et protégé par cette masse, donc c'est très très plaisant et c'est à découvrir, et c'est surtout, donc autant venir. Voilà, le soir rebelote, on se retrouve à la ressourcerie, partager un repas et des animations. Et dimanche, ça sera plus tranquille avec une AG pour voir ce qui était à améliorer et définir quelle sera la ville de la prochaine Vélorution l'année prochaine.
Voilà, tradition oblige, c'est un peu le moment de débriefing et où on va décider où est-ce qu'on devra diriger nos guidons en juillet, en général c'est le deuxième week-end de juillet. Hein.
C'est ça. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, donc ça fait 10 ans que la Vélorution universelle existe et que c'était dans différentes villes, je ne sais plus si tu l'as déjà dit, mais voilà.
Donc allez, on les cite.
Paris, Concarneau, Marseille, Grenoble, Bruxelles, Nancy, Nevers, Tours.
Voilà. Pas mal, ça en fait 10.
Et ben, on va se retrouver sur Radio Panique et Radio Campus Tour dans quelques minutes après une coupure musicale.
Et de 1, et de 2, et de 1, 2, 3, et. Vélo va, vélo vole. La voix va où vélo va. Vélo vire, vélo volte. Où va la vie? Vélo va. Belle voiture, beau camion, beau véhicule à locomotion, beau wagon, belle station, beau train à très grande vision, bel avion, belle fusée. Belle station espacionnée, belle colcose de spationose, bel espace de cosmos rose. Vélo va, vélo vole, la voix va où vélo va.
Alors vélo retour à Tours où se passe la Vélorution universelle, non, on s'en fout du Tour de France, on essaye de faire le tour de la question, je crois que j'ai presque épuisé mon tour de jeu de mots sur votre belle ville, mais on va aussi se poser un peu la question de la grande capitale de Paris et de comment ça se passe. Alors comment ça se passe et pourquoi est-ce qu'il faut encore militer pour le vélo à Paris? Est-ce que ça a encore un sens? Est-ce qu'on a été entendu avec une maire qui a dit vouloir s'en prendre au règne, à l'hégémonie automobile, etc. Et voilà, où en sont les réalités et les besoins d'action?
Oui, donc à Paris, enfin, la place du vélo ça s'améliore quand même d'année en année, on peut pas dire. Mais après, il y a encore un gros problème sanitaire à Paris. Enfin, la circulation automobile génère énormément de particules fines, de pollution. Et la mortalité a d'ailleurs été revue. J'ai les chiffres en France. C'était 48 000 morts par an prématurés à cause de la pollution de l'air. Il y a différentes études qui ont renouvelé des statistiques. On est plutôt à plus de 60 000 morts en France à cause de la pollution de l'air. Donc là, c'est là-dessus que dans les grandes villes, on essaie de jouer. Alors faire des infrastructures cyclables, ça améliore pour que les vélos puissent circuler plus facilement. C'est ce qui est fait à Paris quand même depuis plusieurs années. Mais après, si on conserve quand même la circulation automobile, là, ça ne règle pas totalement le problème de pollution de l'air. En fait, on s'aperçoit qu'une fois qu'on est canalisé sur une piste cyclable, s'il y a encore deux fois deux voies à côté qui circulent, la pollution de l'air.
Est-ce que c'est des politiques qui sont combinées? C'est-à-dire, est-ce qu'on a pu amener le point de vue de la santé, de la mortalité, comme un argument pour la mobilité du vélo? Est-ce que ça a débloqué des choses?
La maire de Paris joue quand même là-dessus pour réduire. Là, récemment, je crois que c'est au 1er juillet, il y a une nouvelle catégorie d'automobiles qui a été interdite à la circulation dans Paris, également au niveau des motos, il me semble, des roues motorisées. Et sachant que c'est interdit, mais en fait c'est interdit pendant la journée entre 8h et 20h, je crois, sinon c'est pas interdit totalement. Mais la maire de Paris joue là-dessus quand même pour pousser ses infrastructures cyclables, même si le plan vélo qui a été voté à la ville de Paris au début de son mandat aura été réalisé, il me semble, que pour moitié seulement à la fin du mandat, quoi. Elle n'a pas réussi à, même si c'est une grosse amélioration déjà. Au sein de la ville, c'est pas...
Et c'est quoi? C'est des forces d'inertie ou bien il y a vraiment des gens et des arrondissements, des propriétaires, des gens qui veulent pas qu'on touche à la voiture à Paris? On fait gaffe, on ménage les lecteurs pour le prochain scrutin, ou alors on va... pas prendre des mesures un peu plus radicales pour qu'effectivement on arrête d'avoir une deux bandes alors qu'on vient de construire un axe cyclable?
C'est vraiment une lutte presque à chaque fois, en fait. Je veux dire, par exemple sur les voies sur berge, la maire de Paris a voulu piétonniser et rendre cyclables les voies sur berge. Elle a été attaquée au tribunal pour vice de forme sur certains petits points. Il y a un lobby automobile qui a essayé de démonter ça, quoi. Elle a repassé un arrêté pour sauvegarde du patrimoine parce que c'était la seule chose qu'elle pouvait qui serait, on espère, inattaquable. Et après, c'est ouais, à chaque... Après, il y a des gros problèmes. Alors, je crois que c'est surtout lié à la capitale, la circulation. Il n'y a pas que la mairie qui a le droit. Il y a la préfecture qui donne l'autorisation pour la circulation sur des axes principaux. Par exemple, l'axe sud qui rentre dans la capitale, la préfecture, il y avait un axe principal vélo qui avait été voté au Conseil de Paris, mais la préfecture n'a pas donné son accord parce que c'est un axe stratégique pour les convois officiels, pour les arrivées depuis l'aéroport d'Orly, et ils n'ont pas voulu faire de piste cyclable, alors que le boulevard il fait 40-50 mètres de large, quoi.
Lucie, c'est quoi les forces en présence à Paris qui luttent contre le changement de la mobilité et la pacification des espaces publics?
Il y a une association automobile qui est assez présente, qui est contre le fait de retirer de la place à l'automobile.
Et donc ça se passe comme ça. Ce qu'on a vu aussi, c'est pas mal de chamaillage politique. C'est-à-dire on a un peu l'impression qu'on encapsule les bobos et Hidalgo d'un côté, et puis que c'est facile de générer une opinion majoritaire autour. Les gens qui ne seront pas d'accord avec cette politicienne, ou les gens qui ne sont pas dans l'identité vélo maintenant, font un peu un front. C'est des résistances un peu sociopolitiques comme ça contre le vélo, non?
Oui. Aussi, oui.
Vous le sentez, vous, un peu la discrimination d'autres personnes?
Après, il y a quand même un problème. À Paris, globalement, ça s'améliore bien. Et après, il y a quand même un problème avec la banlieue, parce que la Paris, c'est ville-capitale, mais en banlieue, aujourd'hui, quand même, à Paris, globalement, c'est, en 10 ans, ça s'est vraiment amélioré. Dès qu'on sort de Paris, la circulation, il y a des doubles voies, sans rien, sans aucune piste cyclable, c'est l'enfer, quoi.
Axel.
J'ai un peu une vue extérieure sur Paris. De ce que j'ai pu constater, il y a quand même la région. Je crois que c'est représenté par Valérie Pécresse, qui s'oppose aussi pas mal à des projets d'aménagement cyclable.
Bah, ouais, mais c'est la même Valérie Pécresse qui a par exemple attaqué la piétonnisation des voies sur berge, quoi. Donc c'est voilà, et du coup c'est plus une guerre politique parce que récemment elle a dit finalement c'est pas mal.
Oui, il y a un affrontement conservateur-progressiste. Chez nous, à Bruxelles, ce qu'on peut dire, et en très court, la question de la qualité de l'air s'est beaucoup invitée dedans. Et on a vu quelque chose de très intéressant, c'est un mouvement non cycliste de parents dans les écoles qui ont fait des manifs tous les vendredis matins jusqu'aux élections locales. Et puis, ils ont encore fait l'effort de le faire pendant 8 mois jusqu'aux élections régionales. Donc, chez nous, c'est une ville-État, si on veut. Et ça a joué sur le champ politique, mais le champ politique n'a pas réussi à vraiment progresser et à dire « Ok, maintenant, on veut changer les choses de façon radicale. » Donc, on peut dire que les actions citoyennes de type masse critique, Vélorussion, en s'élargissant aussi beaucoup plus au sens des familles, au sens de la santé publique, arrivent à peser sur le débat politique, mais on n'a pas encore des avancées où on ose sortir du vieux débat conservateur contre visionnaire, quoi.
Bah, pour aller un peu dans ce sens-là, effectivement, depuis, en tout cas en France, depuis août-septembre, il y a vraiment une mobilisation citoyenne avec des marches climat, notamment des lycéens ou des plus âgés qui vont dans la rue, parce qu'en fait, c'est pas seulement une question d'écolo-bobos qui veulent se déplacer en sentant les petites fleurs en allant au boulot, quoi. C'est aussi une question d'urgence climatique, et la biodiversité se meurt, et l'humanité est clairement en danger, et qu'à un moment donné, bah, si on veut faire suffisamment d'efforts pour essayer de ne pas trop morfler avec le réchauffement climatique et avec tous les désastres qui vont y venir, sachant que la canicule, déjà, on l'a un peu subi, et je pense que c'est juste un petit avant-goût, c'est aussi de dire qu'à un moment donné, bah, effectivement, ces questions de pollution de l'air, de cancer et de problèmes sanitaires liés à la pollution de l'air et du réchauffement climatique, à un moment donné, c'est juste une urgence majeure, et qu'à un moment donné, c'est bien beau d'être de droite, de gauche, ou de faire des petites polémiques, ou de vouloir garder son confort, mais en fait, le confort de la voiture ne peut pas être maintenu, et qu'il faut bien comprendre qu'il faut aller vers des modes de transport beaucoup plus écologiques, et le vélo offre cette efficacité, cette autonomie, qui pour moi est juste indispensable et nécessaire au vu de l'urgence climatique. Voilà ce que je voulais.
Surtout qu'il faut profiter maintenant de faire du vélo, parce que post-pétrole, on ne peut plus produire de vélo aussi bien avec des bons pneus qui empêchent d'avoir mal au cul, tout ça. C'est maintenant. Après, ce ne sera plus possible. Il n'y en aura plus des vélos. On sera à pied, c'est tout.
Allez, on va faire du caoutchouc bio pour nos pneus et machin.
Et tu le ramènes comment ?
Ah ben, on va le produire localement. Allez,
ah, tu produis du caoutchouc localement, toi ?
Avec l'augmentation de la température, on va faire des EVA.
Ah, faut réussir à ramener les graines avant que ce soit brûlé là-bas, parce qu'entre les deux tropiques, il n'y a plus de vie. Hein.
Bon, avant que tout s'effondre, on a des solutions à la Vélorussion universelle, et elles sont là, tout simplement. On peut peut-être aussi se demander si les solutions appartiennent seulement aux politiques et aux gens qui conseillent le politique, et peut-être voir aussi, je sais pas, dans la vie de vos associations, etc. Vous avez vu des évolutions, comment, bon, ici ça bouillonne un peu peut-être avec la préparation de la Vélorussion, mais tu disais, Anaël, qu'ici à Tours, il y avait un peu différents niveaux d'associations sur comment ils s'impliquaient. Tu peux nous expliquer ?
Bah, y a le collectif Cyclis 37 qui propose notamment la vélo-école, qui d'ailleurs apprend à des adultes à faire du vélo, et ça c'est vraiment un travail très chouette, et en fait on n'a pas en tête les efforts et les heures d'apprentissage du vélo quand on est adulte, donc le CC37 fait un gros boulot là-dessus. Le CC37 va également être en lien avec la métropole ou la mairie, et va essayer d'être consulté, d'être autour de la table, de négocier, etc. Roulement habile va beaucoup moins se positionner sur ces questions-là d'élus, etc.
Ça.
Oui, tout à fait. La plupart, beaucoup de bénévoles de notre atelier Roulement habile préparent l'orga VU. Roulement habile, par contre, on va avoir une plus grande aussi ouverture sur les usagers, notamment grâce à notre politique du prix libre. C'est une gestion intéressante du prix libre. Et la première fois qu'on entend parler du prix libre, on est un peu en panique parce qu'on veut un prix et on veut payer un prix. Et là, on nous dit, bah, en fait, si tu es vraiment en galère d'argent, bah, en fait, on va t'inscrire à 0 euros. Avec 0 euros, tu vas pouvoir profiter de l'atelier et bienvenue. Et du coup, ça permet d'avoir une mixité sociale très intéressante. Après, on a des personnes qui vont bien gagner leur vie et qui vont pouvoir payer une adhésion de 15, 20, 30 euros. Et ça, ça permet finalement aussi de mettre à disposition, grâce à l'autoréparation ou retaper des vélos qu'on a en stock, mettre à disposition des vélos. Et c'est aussi de se dire, bah, le vélo permet cette autonomie-là et c'est très utile aussi économiquement. Et après, effectivement, les masses critiques, les vélorutions sur l'espace public permet aussi de rendre visibles les cyclistes, de leur donner une place dans les médias, que ce soit à la radio ou dans la presse, et de se dire, bah, nous sommes là, nous sommes sur la route et on compte bien y rester et être toujours plus nombreux. Donc on va avoir cette approche-là finalement plus militante et plus sur la route vers la masse critique.
Et là, par exemple, à Tours, là, il y a eu 3-4 vélorutions là, depuis un an.
Effectivement, il y a un petit collectif qui ont relancé les vélorutions. Donc, les vélorutions existaient déjà il y a plusieurs dizaines d'années. Non, quelques années, je ne sais plus exactement, mais elles étaient retombées. Et là, effectivement, en novembre, mi-novembre, il y a eu une première vélorution Tourangelle à nouveau. Il y a quand même eu 180 personnes, donc c'était très chouette. Il y en a eu à nouveau... je crois bien en février et une mai-juin. Et effectivement, c'est l'idée de prendre plaisir aussi, d'être dans cette masse, comme je le disais, et ouais, de militer pour le vélo et de manière conviviale. Et c'est plutôt chouette et je pense qu'on en a vraiment besoin et que c'est militer de manière plutôt sympathique, quoi.
Je pense aussi que la vélorution, elle a un rôle d'information aussi. Quand on passe dans la rue, que les gens nous voient, ils se rendent compte que... personne peut faire du vélo en fait, que eux aussi, parce que ben dans la vélorution il y a de tout, il y a des enfants, il y a des vieux, il y a de tout, et que il y a un gros travail d'information à faire auprès de la population, comme quoi bah tu peux transporter oui ton enfant, tu peux transporter ton vieux aussi, c'est possible, on peut transporter son vieux à vélo, on peut transporter son chien, on peut tout transporter à vélo. Faut avoir un vélo adapté à soi, parce que souvent il y a des gens qui nous disent oui mais moi je n'arrive pas nanana, et quand tu vois le vélo qu'ils ont, tu vois que c'est le vélo qu'ils avaient quand ils avaient 15 ans et que bah maintenant ils en ont 40 et ça va plus en fait. Quand on grandit, on évolue, le vélo change selon les besoins. Souvent, les gens ils pensent que le vélo qu'ils avaient quand ils avaient 15 ans, bah, c'est un vélo et que tous les autres vélos sont comme ça. Et il faut informer les gens qu'en changeant de vélo, en ayant un vélo adapté à eux, ils peuvent faire du vélo au quotidien et continuer leur vie avec ça, plutôt qu'avec la voiture.
Je vous propose de refaire une petite pause et puis de revenir un peu sur les mouvements de vélorution universelle. C'est quoi les vélorutions? Donc ici, il y a un jour habituel de cette vélorution? Non, elle n'est pas régulière ici dans la ville, hein.
Pour l'instant, sur Tours, on en fait une par saison. On est lancé là-dessus sur un rythme de une fois tous les 4 mois et de se dire bah, on verra par la suite et de ne pas trop s'essouffler parce qu'on a un peu peur de ça. Mais voilà, 4 par an, c'est un peu l'objectif affiché par le collectif La Vélorution Tourangelle.
Et à Paris alors ?
À Paris, du coup, c'est tous les premiers samedis du mois. On part de Place de la Bastille et on se balade dans Paris. À 14h tous les premiers samedis du mois. Alors, le trajet n'est pas du tout prévu en fait, c'est ceux qui sont devant le cortège qui décident de la direction que l'on prend. Et c'est vrai que pour revenir sur la vélorution, je trouve que ça donne confiance en fait, participer à une vélorution pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude peut-être de faire du vélo en ville, surtout dans une ville ou sur des gros axes. En fait, ils se sont protégés au sein du groupe et il peut se dire je ne serais jamais passé là, j'aurais eu peur. Et là, de fait de passer à des endroits que d'habitude, il n'aurait jamais emprunté un axe, ça peut l'inviter à passer à d'autres occasions. Ouais. En fait.
Encouragé par le groupe, et puis on partage aussi un peu les identités du vélo à Nancy, c'est quelle fréquence, c'est quel jour?
Alors, c'est plus ou moins comme Paris, sauf que c'est plutôt le second samedi du mois. Une masse critique mensuelle, même principe, c'est le premier qui mène la danse. Et puis, de temps en temps, genre 2-3 fois par an, sont réalisées de vraies vélorutions avec des revendications officielles. Donc il y a des rencontres d'élus, etc. Et là, il y a une déclaration officielle qui est faite auprès de la préfecture aussi, pour le tracé. Okay.
Et alors, chez vous, à Merger ?
À Bernay.
Bernay.
À Bernay, c'est le dernier vendredi de chaque mois à 18h. On n'en est qu'à la troisième, mais on va évoluer.
Et comme c'est une toute petite ville, ben on vous trouve d'office parce que vous vous occupez de toutes
alors,
les rues.
C'est une toute petite ville, on nous trouve d'office. Bah, pour l'instant, on est resté dans le centre parce que c'est là où sont les gens. En fait, le problème, c'est que nous, on est d'ex-parisiens et on a du mal à s'adapter. En fait, à 18h30, il n'y a plus personne dans les rues. Du coup, c'est à 18h. On va y arriver.
C'est l'heure de manger.
Voilà, non, oui, c'est. Ah bon? On essaye de trouver, pour l'instant on a testé donc le vendredi soir, le samedi après-midi ça nous paraissait plus logique, mais en même temps il y a le marché le samedi matin, du coup le samedi après-midi tout le monde est chez soi, le dimanche il n'y a personne. On s'est dit, calons-nous sur le truc anglo-saxon le vendredi soir et on va voir ce que ça donne.
Voilà, à Bruxelles on est aussi sur le vendredi soir, effectivement origine anglo-saxonne de Californie, hein, San Francisco. En 1996, 1996 pour les auditrices, auditeurs belges, qui a la première fois cette Critical Mass Bike Ride. Et à Bruxelles, elle existe depuis très longtemps. Et là, on a fêté l'année passée ses 20 ans. Donc 21 ans tous les mois. Et notre recette, tous les vendredis, les derniers vendredis du mois, Port de Namur à 18h. La recette, c'est qu'elle a lieu même s'il n'y a pas la moindre orga, ou même si on est deux. Si on est deux, on va faire un tour et puis on va boire un verre. Sauf que pour l'instant, ben, ils sont la nouvelle génération, qui sont la quatrième génération organisatrice de ça, arrive à regrouper plus de 200 personnes tous les mois.
Chouette. On fait une petite pause musicale et puis on se retrouve après, toujours sur Radio Panique et Radio Campus Tour.
Mais si on est chaud, on peut continuer tout de suite. C'est juste...
Bicyclette, toi dans ton auto, tu pues vraiment trop de bons mollets pour pouvoir pédaler et ça fait un bien joli fessier. J'ai un beau vélo, une belle bicyclette, toi dans ton auto, tu pues vraiment trop.
Yeah. C'est le genre de chanson qu'on pourra entendre du coup lors des masses critiques à Tours là, du coup cet après-midi et puis demain après-midi.
Bientôt plus de pétrole, balance ta bagnole. Venez à la Vélorussion universelle, donc la toute grande samedi à 14h45. Il faut venir à l'avance et il faut boire des coups et se rencontrer à la place de Strasbourg ici à Tours. On était parti un peu pour se raconter c'est quoi les Vélorussions universelles pour que les gens le comprennent. Cette balade à vélo manifestive qui nous permet parfois de saisir des enjeux politiques, parfois de se regrouper, de se sentir plus fort entre nous, etc. Mais qu'est-ce que participer à une Vélorussion universelle ou à ce mouvement-là, qu'est-ce que ça représente pour nous en fait? Parce que certains d'entre nous le font depuis des années. On va faire un tour de table pour savoir. Lucie, toi, ça fait combien de temps?
Bah, ça fait 10 ans, la Vélorussion universelle.
Axel?
Moi, c'est la quatrième année.
Moi, c'est que la deuxième année, donc bon avis.
Ouais.
Et pareil, moi, la deuxième, j'ai découvert ça à Nevers et c'est quelque chose de pas mal nouveau, de se dire, ah, tiens, c'est un événement qu'on connaît pas, avec une culture quand même spécifique, vélo et un peu voilà, autour de cette question-là, d'autogestion, de prix libre. Et c'est franchement chouette et ça permet de rencontrer aussi du beau monde qui vient de toute la France, voire d'Europe, et ça fait bien plaisir.
Solène, t'es notre hôte sur le Campus Tour. Et
moi, ça va être ma toute première vélo sur universelle, donc j'ai hâte de faire du coup cet après-midi, puis demain surtout le samedi 13 là où ça va être très intense.
Et je rajouterais juste qu'on avait oublié de nommer la Vélorution nocturne, donc vendredi soir, donc demain 23h. Place Sainte-Anne, où le but
ce soir.
Et oui. Du coup, Vélorution nocturne, l'idée c'est voilà, d'occuper aussi l'espace public la nuit, d'être bien visible et de se faire plaisir aussi avec une balade nocturne.
Ah ouais, okay. Moi, ça fait aussi 10 ans, donc, ayant pratiqué beaucoup de masse critique à Bruxelles, quand s'est apparue cette proposition des fous parisiens, je me souviens de Yann, mais il y avait encore pas mal d'autres personnes qu'on recroise encore de temps en temps sur les Vélorussions universelles. Et c'est aussi l'occasion de faire quand même un beau voyage, donc une expérience collective sur la route. Je pense que chacun d'entre nous programme un peu une partie de ses vacances, du moins, pour faire ce truc-là. Et puis se retrouver dans un camping comme celui que vous nous avez préparé vraiment, vraiment très chouettement. Qu'est-ce que... Je ne voudrais pas commencer par moi sur ce que ça signifie appartenir à ça, mais peut-être pour toi, Lucie, qui est là... Qui le fait depuis 10 ans, et là, suite à un déménagement, même relancer la machine dans un bled qui n'en a jamais entendu parler, ça signifie quoi pour toi? Ça a quelle place dans ta vie?
La Vélorution universelle, c'est un moment de partage entre plein de cyclistes, avec les gens qu'on croise dans les villes, dans les autres villes. C'est un moment de cohésion aussi, parce qu'on se retrouve avec des cyclistes au quotidien. On n'a pas forcément d'autres cyclistes avec nous. C'est un moment de fun.
Vous avez aussi été organisateur à Nancy. Donc,
oui, il y a 2 ans, la Vélorution à Nancy, que j'ai participé à l'organisation. On était assez nombreux, donc... ça s'est bien passé. Pour répondre à la question d'avant, moi, ce qui m'intéresse le plus, je dois avouer, c'est pas spécialement la Vélorution, c'est surtout le voyage en amont. j'ai l'habitude de poser 2 semaines, et donc pendant environ 10 jours, je me promène, parce que bon, je roule tout doucement. Et donc là, j'ai fait à peu près 80 km en train au début, parce que je connais le secteur autour de chez moi. Puis après, je suis venu en vélo de Nancy en découvrant notamment la Loire à vélo, qui est un peu fatigant, contrairement à ce que je m'attendais, mais qui était fort sympathique.
Pour moi, c'est l'occasion de retrouver des gens qui étaient à la Vélorution à Paris et qui sont partis un peu partout dans notre ville en province, et pouvoir les retrouver, partager nos luttes au quotidien sur la place du vélo dans nos villes. Et voilà, c'est bien sympa de se retrouver.
Ça permet de découvrir la France. C'est vrai que le voyage à vélo de chez soi pour aller dans toutes ces villes, c'est un moment vraiment sympa. En général, on part à 2 ou 3 de chez nous, puis petit à petit, il y en a d'autres qui se rajoutent et on arrive à 15-20. C'est vraiment un moment vraiment sympa.
Toi, Yévin, ouais, t'es parti du coup de Bruxelles la semaine dernière.
Le samedi, oui, j'ai aussi pris des trains pour m'avancer un petit peu dans certaines étapes. Mais ouais, traverser une France un peu... je suis passé pas très loin de la région parisienne, et donc se rendre compte aussi du cadre de vie dans les tours, au milieu de ce trafic généré par la mégapole, ça fait réfléchir. C'est pas qu'un voyage de loisirs, c'est un peu un voyage d'effort et de groupe. Moi, je suis parti seul cette année, mais c'est souvent aussi de groupe. Et donc, se jeter dans l'alternative, en général, tu arrives avec de la paille ou des tresses dans les cheveux, des bricolages pas possibles à la chambre à air sur ton vélo. Et c'est quand même un moment de culture vélo.
Et je pense qu'il y a en particulier là où on vit tous nos vélorussions, nos masses critiques dans nos villes, avec un mélange entre militants chevronnés et novices qu'on initie un petit peu à prendre le relais. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on est presque que entre chevronnés, des gens qui sont bien dedans ou qui se lancent à corps perdu parce qu'ils sont depuis un an ou deux dans le mouvement. Et ça, c'est très réconfortant parce que même si on est loin, on a les mêmes pratiques. Donc effectivement, c'est de la cohésion, du partage d'expérience. Mais tiens, nous, on a fait comme ça. Nous, c'est comme ceci. Nous, on a des grands-pères et des enfants. Ah non, nous, on a que des fixies. C'est assez chouette. Je pense au niveau européen, c'est un des moments comme la Criticona et les autres. Donc en Espagne, en Italie, il y a des très grands rassemblements de ce type-là. C'est vraiment un événement de culture cycliste européenne, quoi. Et de cycliste non sportif, plutôt. Cycliste politique, on va dire.
Et toi, Annaëlle, du coup, l'année dernière, tu avais fait le trajet de Tours à Nevers en vélo?
Alors, pour des raisons professionnelles, moi, j'ai fait juste une journée pour m'avancer. Mais en fait, tout le groupe avait fait tout le chemin, effectivement, à vélo, Tours-Nevers. Ils étaient partis le dimanche pour arriver le jeudi. Et bah, c'est un temps très sympa de balade, de voyage à vélo, de se faire des vacances entre copains, de galérer un petit peu ensemble quand il y en a un au bout de 3 km, il a déjà un pépin mécanique. Et c'est très plaisant de se dire, bah, en fait, je vais parcourir des centaines de kilomètres à vélo. Et du coup, je fais le lien avec ceux qui partent en vacances à vélo. C'est aussi de se dire, bah, en fait, je pars de Tours et je vais arriver en Espagne, quoi. Mais ça me prendra 12 jours et... En fait, je vais découvrir tous les paysages français, je vais découvrir les petites ou grosses villes et on pourra discuter quand on se posera dans un pique-nique dans un champ. Et que voilà, c'est aussi très chouette de penser vacances et voyages à vélo parce que c'est un autre rythme, d'autres découvertes. Et c'est pas seulement j'ai fait Rome, je prends l'avion et je pollue et je reviens au bout de 3 jours. Mais là, en gros, voilà, j'ai mérité de découvrir tout ça et ça permet d'avoir une autre approche du territoire et de la découverte.
Et j'ai parlé aux autochtones d'un peu partout et un midi, on pensait trouver une épicerie dans un petit bled paumé, on trouve rien, on passe à la suivante et toujours rien. Et à chaque fois, on n'a pas de boulangerie ouverte, on a faim. Et là, il y a une personne qui arrive, qui rentre chez elle et qui te dit « Vous êtes à vélo? Vous voyagez? Mais vous avez faim ?» Et qui vous ouvre la porte de chez elle, qui vous invite dans son jardin et qui vous fait à manger. Et ça, c'est vraiment des moments géniaux. Même si t'es 15, 20, 30...
Oui, souvent l'accueil est très bon et quand on est dans le sud de la France et qu'on dit on vient de Tours ou qu'on a fait déjà 300-400 km, ils nous font des gros yeux en mode waouh, là vous avez faim, vous avez soif, venez, on va effectivement vous aider. Et ça, c'est plutôt chouette et ce qui n'arrive pas en voiture, quoi. Quand tu as fait 400 km en voiture, on ne t'aide pas.
Ouais, un peu l'impression que c'est. Le voyage à vélo, il est au voyage la contestation de ce que devient aujourd'hui le tourisme, qu'il soit Airbnb, qu'il soit les avions, qu'il soit des capitales ou des centres touristiques de plus en plus chers, de moins en moins humains, même pour le touriste lui-même ou le rapport du commerçant à cette personne. Et je trouve que cette échelle-là, on la voit à d'autres niveaux. On parlait tout à l'heure en off des trottinettes électriques ou des systèmes de mobilité pour lesquels il faut payer avec une carte de crédit, etc. Ben, le fait d'être dans l'effort, donc dans un sens on mérite un peu son voyage, mais aussi d'être surtout dans la technologie adaptée que représente le vélo, de vraiment quelque chose... C'est être autonome, donc c'est être autonome un petit peu mécaniquement aussi pour y arriver. On peut retrouver une estime de soi et finalement aussi une estime des autres qui disent « Ah ouais, c'est encore possible de faire ça au 21e siècle », là où aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui, entre l'aquasplash et la chambre d'hôte super chère, ne vont plus se mettre eux-mêmes là-dedans. Donc c'est une expérience de voyage et pas une consommation de voyage.
Pour rebondir, c'est effectivement... On retrouve souvent parmi les vélorussionnaires des bénévoles dans des ateliers d'autoréparation et c'est vraiment chouette de dire mais en fait tu as 10, 20, 40, 50, 60 ans et en fait tu sais à peine gonfler ton pneu, ben en fait tu es capable, tout le monde est capable, fille, garçon, jeune, vieux, riche, pauvre, d'apprendre à faire de la mécanique et de se dire ben, je vais réparer mes freins pour me mettre en sécurité effectivement être autonome dans la réparation, et ça permet, c'est extrêmement valorisant de dire bah, j'y ai peut-être passé une heure et demie, mais je l'ai fait de manière gratuite, parce qu'au final souvent les adhésions sont pas bien chères et on peut y retourner quand on veut. Et effectivement c'est très valorisant de dire bah, je suis capable de faire des centaines de kilomètres à vélo et je suis capable de réparer ma monture, et au pire il y a les copains pour aider, et il y a les outils, les conseils, et voilà, réapprendre tout ça c'est très valorisant, mais effectivement ça demande de mettre la main dans le cambouis, et voilà.
Anaël, dans le cadre de l'organisation ici de la Vélorussion, avec tout votre groupe, vous êtes une petite dizaine de personnes, on va dire. Vous essayez aussi d'insuffler d'autres pratiques de démocratie de groupe, d'intelligence collective, de respect, etc. Comment et pourquoi c'est important de l'exprimer derrière? Il y a quand même beaucoup de choses derrière le vélo.
Alors oui, tout à fait. En fait, on a... derrière le collectif d'Orga, on a l'association, et la culture de notre association et de la Vélorussion sont très très proches. Donc j'ai déjà dit le prix libre, mais je trouve ça absolument génial de pouvoir attirer tout le monde. On a une pratique d'autogestion, donc on n'a pas un président, une présidente d'association, on est tous co-présidents dans le CA. C'est-à-dire aussi on va avoir une Orga horizontale, et en fait pareil pour la Vélorussion universelle, on prône l'autogestion, c'est de dire bah, à un moment donné, tout le monde met la main à la pâte, tout le monde participe au rangement, à proposer des activités, des animations, et de dire, bah, en fait, c'est aussi contre cette culture de la consommation, de juste, je suis passif, je paye et on m'apporte ça sur un plateau. Et là, l'idée, c'est bah, tu participes et donc, du coup, tu fais aussi en sorte que ça se passe au mieux et tu remets du PQ s'il n'y en a plus, tu peux animer un atelier, tu peux... améliorer tout ça, et c'est plutôt chouette de dire bah, on est tous acteurs de ça, et il n'y a pas juste nous le collectif Orga qui devons tout gérer, mais c'est aussi les vélorussionnaires qui doivent prendre part finalement à l'événement.
Il y a une marque qui se monte de plus en plus dans les dernières Vélorussions aussi, elle est féministe, on pourrait dire écoféministe ou peut-être cycloféministe, essayons un nouveau truc, à ton avis, parce que t'en es moteur aussi, pourquoi c'est si important dans ce collectif de pouvoir vraiment dire égalité de genre et une attention de soin aussi pour les personnes qui s'estimeraient dominées au niveau du genre?
Alors faut bien voir que finalement... bah, le vélo et la mécanique en général, c'est des, ça peut être vite être étiqueté masculin. La mécanique voiture, la mécanique vélo, c'est étiqueté masculin. Et finalement, la première fois que j'ai mis les pieds dans l'atelier d'autoréparation roulement habile, bah, je me sentais pas trop à ma place et je savais pas trop comment ça fonctionnait, qui, quoi, qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment. Et on se rend bien compte que bah, très souvent, il y a quand même une large majorité d'hommes dans les... ateliers qui vont se sentir plus légitimes, plus à l'aise, et qui vont avoir tendance, et souvent ils veulent bien faire, de prendre les outils des mains des femmes pour faire à leur place. Et on essaye de lutter contre ça en disant non, mais en fait c'est à chacun d'apprendre et de devenir autonome. Et donc à Roulement Habile, on va avoir effectivement déjà dans l'association un collectif qui s'appelle les Roues Libres, et en fait c'est de dire une fois par mois on va juste faire de la mécanique entre femmes, se sentir plus à l'aise, de pas avoir à gérer cette question là et de prendre confiance en fait. Et actuellement je suis capable de tenir l'atelier, de l'animer, d'apprendre un peu de la méca aux hommes, et c'est pas évident de, en tant que femme, de dire mais en fait je suis capable de te montrer, et voilà. Et donc,
c'est pas évident pour les hommes.
Non, ouais, c'est ça, avec des fois des propos sexistes qu'on doit vraiment tacler, franchement. Et voilà, de se dire, en fait, soyons vigilants à ça, au sexisme, et de se dire que aussi sur la route, on a quand même, dans l'espace public, ce discours de « faut pas se balader seul, faut faire, sois prudente, je vais te raccompagner, etc. » Et en fait, le vélo permet quand même... à toutes les femmes, et historiquement c'était un transport qui a permis aux femmes d'acquérir de l'autonomie et de l'indépendance, et c'est un peu ce qu'on revendique aussi dans les ateliers comme dans l'espace public. Les femmes ont aussi leur place et on fait tout pour qu'elles se sentent à l'aise et qu'elles se sentent légitimes pour aussi faire de la méca, pédaler n'importe où, dans n'importe quel quartier, à quelle heure, etc.
On arrive un peu vers la fin de l'émission qu'on retransmet donc depuis Tours, la Vélorussion universelle. Si vous voulez en savoir plus sur ce mouvement, ces éditions, il y a quand même le site vélorussionuniverselle.org. On va voir le programme de celle-ci, mais aussi un peu ce qui s'est passé sur les précédentes. Je pense que c'est un bon point de départ pour découvrir un petit peu ce monde-là. Moi, je voudrais remercier en particulier Campus Tours. Donc 99 points. 5. 99.5, je te lis en belge, 99.5. Et Radio Panique, 105.4 à FM à Bruxelles. Tout ça, ça s'écoute et ça se réécoute sur Internet si vous voulez l'écouter, sur nos sites. Et merci aussi à Arthur Lacombe qui a fait le relais depuis Bruxelles. Et il nous a aussi offert un des morceaux de vélo, des vélos sonores de Axoso, donc l'atelier de création sonore et sauvage qu'ils animent collectivement à Bruxelles.
Ben merci à toi Yévin, et puis on se retrouve du coup, merci à toi Annel, et puis merci à tous les intervenants effectivement.
On salue encore Erwan de Paris, qui sont encore autour de la table maintenant, Axel de Nancy, Lucie de Il va vraiment falloir que je visite.
Bernet.
Alors c'est vous la prochaine Vélorussie universelle?
On espère bien.
Oui, on votera pour eux. Et Annel de Tours.
Merci et bonne Vélorussie universelle à tous et toutes.
Voilà, merci à Solène.
À très bientôt, salut.